Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste. Elle connaît King Kong pour de vrai, mais elle ne l'a jamais regardé comme une bête de foire. Au contraire, c'est avec beaucoup d'humilité qu'elle a dédié sa vie aux primates, aux grands singes. Cette humilité qui la caractérise encore aujourd'hui, alors qu'elle est devenue une des plus grandes primatologues du monde. Sa vie, c'est en forêt, et autant vous dire que c'est lorsqu'elle arrive en ville qu'elle se sent hors piste. Elle s'appelle Sabrina Krief, et ce soir, elle est donc avec nous. Une émission qui n'aura sans doute jamais autant rimé avec passion.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Ce qui est assez incroyable chez les chimpanzés, c'est que quand on les entend crier comme ça, on a l'impression qu'ils sont violents.
Faites-nous un petit coup de chimpanzé justement pour voir la différence.
On peut faire une salutation par exemple.
Allez-y. Salutation. Ouais. Très joli.
Vous voyez qui est-ce ? C'est un tabou. Au-dessus, on a Ulysse, Aragon, qui est le frère d'un tabou, et celle qui vient juste de descendre, c'est Shakira.
Ils sont là, là-haut. Là, ils viennent nous dire, l'assistant vient de les voir, donc ils sont là. Un bout du corps, ça y est, tiens, je viens de le voir.
Ça, ça bouge, hop, tu vois ça.
Sa tête, on voit sa tête. Alors, on va essayer d'identifier l'individu.
Sabrina et Jean-Michel, c'est l'histoire d'une rencontre sur les bancs du lycée, à Maison Alfort, en banlieue parisienne. Très vite, ils sont happés par l'aventure. Le Kenya et la faune sauvage.
Jouer avec un chimpanzé, pour ceux qui ont des enfants, c'est pas du tout pareil. Parce qu'un chimpanzé, c'est très fort et ça n'arrête jamais.
Est-ce que vous connaissez le nom de celui-ci ?
Oui !
Dis-moi. Un babouin. Un babouin, tout le monde est d'accord ?
Oui !
Bravo, vous êtes super fort. Et donc celui-là, ce serait qui ?
Un chimpanzé.
Un chimpanzé.
Le singe aime les grimaces. Le singe est un petit malin. Le singe aime faire des farces. Le singe est un petit coquin.
On avait dit à Jeanne Goudal, les chimpanzés sauvages sont dangereux, méfiez-vous. Jamais vous ne pourrez les approcher. 3 ans après, Jeanne Goudal joue familièrement avec les bêtes les plus sauvages du monde.
70% des grands singes qui ont disparu de la planète ces 50 dernières années. 70%.
Ah, oh là 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 là. Oh, que le gros sourire. Tu fais peur, le monsieur, hein.
Il y a un an que Léo Ferré n'avait pas reparu sur nos écrans. La dernière fois, d'ailleurs, c'était pour Panorama. Et il nous reçoit très gentiment une nouvelle fois. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, c'est la rentrée de Léo Ferré, bientôt, à Bobino.
Oh, Pépé !
Pépé !
C'était mon enfant. C'était ma fille. Elle était donc comme un enfant à qui on apprenait à faire des choses. Elle apprenait vite.
Chaque fois que j'en parle, ça m'est à la fois pénible parce que je sais que les gens ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'un chimpanzé.
T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé, Pépé, Pépé.
Léo Ferré qui chante Pépé, son chimpanzé de compagnie en quelque sorte. Bonsoir et bienvenue dans Hors Piste sur France Inter, Sabrina Krief.
Bonsoir.
Moi, quand j'étais enfant, je voulais absolument, absolument avoir un singe. Mais à part dans un cirque, à part au parc de Thoiry, quand mes parents m'y emmenaient, ou dans les films, j'en ai jamais rencontré. Comment vous les avez rencontrés, vous ? Comment ils sont entrés dans votre vie ?
Alors moi, je les ai rencontrés en milieu naturel pour la première fois au Congo, alors que j'étais à la fin de mes études vétérinaires et que je partais pour un stage de 6 mois afin d'étudier la façon dont ils pouvaient se réadapter à la vie sauvage. C'était des chimpanzés orphelins, donc qui avaient vécu une histoire assez dramatique avec les humains et qu'il fallait rendre à la liberté.
Mais enfant, vous aviez déjà envie d'aller vers eux, d'aller vers les singes? Vous rêviez de singes?
Pas particulièrement, ça n'a pas été forcément ce qui a guidé mon enfance, ma jeunesse et mes études. J'avais envie de travailler avec la faune sauvage et si possible loin, mais ça s'est fait au gré des rencontres et avec beaucoup de chance. Et c'est vraiment les premiers contacts avec ces chimpanzés, les premiers travaux de recherche que j'ai essayé de mettre en place à ce moment-là qui m'ont forgé cette envie d'en savoir plus et qui ont aiguisé ma curiosité qui est toujours aussi vivace.
Racontez-nous le déclic, la rencontre qui a finalement changé votre vie. Et je ne parle pas de Jean-Michel, votre mari, parce que lui, on en parlera un petit peu plus tard. Mais la rencontre avec, je crois, c'était une femelle chimpanzée. Hein.
Oui, effectivement. En fait, donc, quand on est arrivé dans ce sanctuaire, qui est un orphelinat où les bébés chimpanzés qui ont été saisis, ou bien que les personnes qui les avaient adoptés décident de confier à cette orphelinat, parce que vivre avec un chimpanzé c'est pas possible, à part pour Léo Ferré et Pépé, bien que cette histoire ce soit aussi mal terminée. Mais la plupart du temps c'est complètement impossible de vivre avec un chimpanzé, et donc ces jeunes chimpanzés sont recueillis dans des sanctuaires, des orphelinats en fait, où dans certains cas on tente de les remettre en liberté à la vie sauvage. Et là c'était une première expérience. Et donc je suis arrivée dans ce sanctuaire où il y avait des îles sur lesquelles vivaient les chimpanzés. Et le premier jour, en fait, pour cette première rencontre, on nous a proposé d'aller en barque nourrir les chimpanzés. Et Jean-Michel, donc mon compagnon qui est devenu mon mari, était sur une autre barque avec son appareil photo. Et moi, j'étais avec le soigneur et les fruits dans la barque. Et on m'avait dit, fais vraiment bien attention parce que un chimpanzé qui a faim et qui ne te connaît pas peut être dangereux, violent, donc faut pas trop s'approcher. Et donc tout se passe très vite, en fait on approche et une des chimpanzés qui avait les pieds dans l'eau commence à approcher de la barque reste à distance, justement parce que les chimpanzés théoriquement craignent l'eau, et elle lève les bras hors de l'eau parce qu'étonnamment les chimpanzés ne marchent pas les mains dans l'eau, donc elle lève les bras hors de l'eau, elle saisit le rebord de la barque, elle monte dans la barque, et là en l'espace d'une seconde, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur, je suis enlacée par ses bras.
Elle vous fait un câlin.
Elle me serre contre elle, qui est en fait un geste qui est fréquent entre chimpanzés, qui ne se sont pas vus depuis quelques temps. Elle m'enlace et bah, évidemment, pour moi qui n'ai jamais rencontré de chimpanzé et à qui on a dit de faire très attention, c'est à la fois une surprise, mais surtout... Enfin, j'ai pas le temps d'avoir peur, quoi. Juste le temps de savourer cet instant assez extraordinaire, qui a évidemment après fait beaucoup parler les soigneurs et les autres personnes. Mais ouais,
Elle mesurait combien? Elle pesait combien à peu près, vous savez ou pas?
Un chimpanzé adulte, puisqu'elle était quasiment adulte, ça pèse entre 45 et 50 kilos. Surtout que donc sur ces îles et dans ces orphelinats, ils sont bien nourris, plus qu'en milieu naturel. Et que dans cette partie de l'Afrique, les chimpanzés sont plutôt costauds, quoi. Donc on était à peu près à égalité de poids, mais pas du tout de force. Ouais. Parce qu'effectivement, un jeune chimpanzé, même de 4-5 ans, a une force extraordinaire. Et ça m'est arrivé juste quelques semaines après. J'ai pris une claque par un jeune chimpanzé qui s'était blessé et que je voulais, avec ma petite expérience de jeune veto, contenir pour essayer d'évaluer en fait la gravité de sa blessure. Elle n'était pas du tout coopérative et elle m'a décoché une claque. C'est la seule fois en fait où j'ai vraiment eu une interaction négative avec un chimpanzé. Et là, j'ai compris que même à 3-4 ans, il ne fallait pas s'y frotter.
Alors, laissons la claque de côté. Revenons à l'embrassade. Elle a changé votre vie, cette embrassade, non?
Oui, ça a été un premier contact qui a donné confiance en fait à la jeune veto que j'étais et qui n'y connaissait absolument rien, en se disant finalement ces chimpanzés qu'on nous a décrits comme dangereux, sauvages, etc. Finalement sont capables de grande douceur et de nous accueillir dans leur vie, dans leur environnement.
Pourquoi elle vous a choisi, vous? Vous êtes posé la question, j'imagine, non?
Aucune idée, aucune idée. Ouais. Peut-être le fait que c'était une nouvelle tête et voilà, et que j'étais peut-être naïve et justement, j'avais pas forcément cette appréhension.
Vous êtes allé combien de fois au Congo depuis cette... C'était en quelle année, ça?
Alors, au Congo, en fait, on n'y est pas retourné. C'était en 97, puisque après ces 6 mois et donc ma thèse vétérinaire, j'ai décidé de tenter de travailler sur les chimpanzés sauvages. Donc, ça a été un passage d'un travail plutôt pratique vétérinaire à un saut dans la recherche. Donc, il a fallu faire l'équivalent du master d'aujourd'hui, et puis ensuite une thèse, etc. Et pour ça, il fallait avoir un échantillon d'individus assez important. Et surtout, la question qui m'intéressait, c'était de savoir si les chimpanzés étaient capables d'utiliser des plantes pour se soigner. Mmh. Et donc, pour cela, il fallait des animaux, des chimpanzés, donc qui ne soient pas imprégnés de culture humaine, qui soient en interaction avec leur environnement et la grande diversité des plantes qu'ils ont dans cette forêt tropicale.
Et alors, ils sont capables d'utiliser des plantes pour se soigner ou pas?
Ben voilà, c'est les résultats de mon travail de thèse et puis d'une petite dizaine d'années après, qui ont permis de mettre à jour des nouvelles molécules grâce à l'observation de chimpanzés malades en comparaison avec les chimpanzés sains. Et ça nous a permis de voir que ceux qui toussent, qui ont des parasites, sélectionnent des parties de plantes qui généralement ne sont pas consommées, ne sont pas mangées dans l'alimentation habituelle. Ça peut être des écorces, ça peut être des feuilles amères. Et donc ça guide notre choix. Ensuite, on collecte ces plantes, on en fait l'analyse, on les teste sur des parasites, des bactéries, des virus. Et ça nous a permis de découvrir des nouvelles molécules actives contre le paludisme ou actives contre les cellules cancéreuses.
Donc valable aussi pour l'être humain, pour le coup.
Là, les modèles étaient vraiment des bactéries humaines, des virus humains, etc. Mais avec comme objectif, malgré tout, de comprendre le comportement des chimpanzés et, si possible, de guider la recherche pour des molécules à visée thérapeutique humaine.
Alors maintenant, c'est plutôt l'Ouganda hein, depuis 2008, je crois. Hein, vous allez régulièrement.
Non, l'Ouganda, c'est depuis 99. Donc
depuis 99.
Juste après le Congo, en fait, une fois que cette thèse vétérinaire soutenue, on est parti en Ouganda pour mener ces travaux sur l'automédication. 2008, c'est l'ouverture de notre propre station de recherche et de notre propre terrain de recherche.
C'est votre bureau, en quelque sorte.
Voilà.
Vous aurez votre bureau là-bas.
Notre résidence secondaire. Pendant les 10 premières années, on a travaillé avec une équipe d'Harvard et une équipe de l'université ougandaise de Makerere sur un site où les chimpanzés étaient déjà habitués à la présence humaine. Mmh. Ça veut dire qu'ils étaient sauvages, mais pendant 10 ans auparavant, des chercheurs avaient approché ces individus sans les nourrir. Alors au contraire de Jane Goodall qui en 3 ans a réussi à les approcher rapidement.
Ce qu'on entendait dans le portrait, oui.
Voilà, parce qu'elle a utilisé de la nourriture et des bananes. Aujourd'hui, cette période est complètement proscrite et c'est simplement le contact régulier, visuel, puis après, en se rapprochant, la reconnaissance d'individus. Individu ami que nous sommes, qui fait que les chimpanzés acceptent qu'on les suive et qu'on puisse faire des observations assez fines.
Mmh. En Ouganda, vous y étiez encore cette semaine. Il ressemble à quoi votre bureau, entre guillemets, là-bas?
Alors, mon bureau est en partie construit, puisqu'on a une station avec 8 bâtiments qu'on a mis en place en 2015. En fait, elle a été terminée en 2015. Ces bâtiments hébergent une partie de notre équipe locale. Donc, on a une équipe qui suit les chimpanzés, mais on a aussi une équipe anti-braconnage, une équipe de sensibilisation, un hall de sensibilisation, justement, un petit labo, puis notre maison. Et puis, la plupart du travail est évidemment fait en forêt. Mmh. Donc mon bureau, ça ressemble à une forêt tropicale dense parce que le sous-bois est extrêmement touffu, souvent épineux et aussi un peu glissant parce que il pleut pas mal.
Et ça ressemble à quoi une journée type si ça existe?
Oui, ça existe. En fait, c'est assez routinier dans nos travaux et dans nos horaires. Hein. C'est-à-dire qu'on se lève vers 4 heures.
Quand même.
Ouais, un petit déjeuner rapide, on a déjà préparé le café et tout hein, pour pas perdre trop de temps. Et puis vers 5h, ou quand les chimpanzés sont pas trop loin, 5h15, on part avec la lampe frontale pour rejoindre le site où ils ont construit leur nid la veille. Donc là, généralement, on espère arriver un petit peu avant leur réveil. Ça nous permet de nous replonger dans une petite torpeur bien agréable, parce qu'à cette heure-là, il fait pas encore trop froid, tant que le jour s'est pas levé. Donc on somnole en attendant que les chimpanzés se réveillent. Et puis, au premier craquement dans les arbres, quand les chimpanzés sortent de leur nid, là, il faut se mettre en action.
Ouais.
Récupérer éventuellement, en dehors des périodes de Covid, les urines et les crottes qui nous permettent de faire le suivi de santé.
Il paraît que la récolte de l'urine, c'est le Graal pour vous. Pourquoi ?
Effectivement. C'est un indice de l'état de santé des chimpanzés, et tout particulièrement les premières urines, comme pour nous, qui sont les plus concentrées. Donc ça nous permet de faire des bandelettes urinaires et puis de savoir s'il y a des paramètres anormaux, mais aussi par exemple de faire des tests de grossesse. Tout à l'heure, on a entendu parler de Shakira.
Oui.
Eh bien, la semaine dernière, Shakira a donné naissance à un bébé. On utilise pratiquement les mêmes méthodes pour les chimpanzés que pour les humains.
Enfin, sauf que l'humain, le matin, il se lève, on lui dit, voilà ce qu'il faut faire, et il sait faire. Comment on fait techniquement pour aller approcher un chimpanzé qui vient de se réveiller? Il dit, mais mon ami, il faut faire dans l'éprouvette, là.
Alors, on se munit d'une branche qu'on a coupée, qui se fait comme une sorte de filet à papillon, en fait, munie donc d'une fourche sur laquelle on enfile un sac plastique, on fait comme une petite cuvette, et quand le chimpanzé fait pipi, donc depuis son nid ou depuis une branche, on court dessous.
Ah, vous allez à la pêche, en fait.
Voilà, exactement.
D'accord.
Alors, on mime, c'est pas évident à imaginer, mais on court dessous avec cette espèce de manche et cette cuvette pour récupérer quelques gouttes d'urine qui ensuite on pipette et puis on met effectivement dans un tube. Après, on peut faire le test de grossesse ou la bandelette urinaire.
Vous parliez de Shakira, il y avait Elliot aussi qu'on évoquait. Qui leur donne des noms? Qui les baptise?
Alors, c'est nous et l'équipe. En fait, l'idée est de pouvoir identifier les individus, et bien sûr, on a des signes distinctifs qui nous permettent de les reconnaître. On pourrait se dire, oui, mais c'est un travail scientifique, pourquoi ne pas leur donner des numéros?
Ouais.
Alors, effectivement, on fait un travail systématique, vraiment le plus objectif possible, mais on ne peut pas s'affranchir du fait que ce sont des individus, ils ont des personnalités.
Il y a de l'affectif là-dedans.
Il y a forcément de l'affectif, mais dans la prise de données et dans l'analyse des données, on s'en défait. Par contre, on reconnaît des tempéraments, des comportements qui sont propres à chaque individu.
Et leur nom, ils le connaissent ou c'est un truc d'humain, ça?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, l'habituation, ça consiste à les approcher, mais à devenir le plus neutre possible dans l'environnement, de façon à ne pas les déranger du tout. Donc, au contraire de cette première période où les interactions étaient fortes avec les chimpanzés, cette embrassade, le fait que les chimpanzés étant orphelins, on voulait savoir s'ils allaient bien, on faisait des palpations, on les auscultait, je leur prenais parfois la température. Là, aujourd'hui, avec les chimpanzés sauvages, on garde 7 à 10 mètres de distance.
D'accord.
On ne les touche pas, on ne les appelle pas, on n'essaie pas d'attirer leur attention.
Donc ils ne cherchent pas à créer un lien, eux?
Non, alors les plus jeunes, parfois tentent de jouer avec nous, de nous intimider, etc. Et c'est là où c'est sûrement le plus difficile. Il faut résister à la tentation de répondre à ces demandes.
C'est l'alerte mignonnerie, là, on a envie de les...
Non, ouais, un petit voilà. Peu, et puis les petits, les mâles, à même 3-4 ans, commencent à essayer de faire des petits, ce qu'on appelle des displays, des charges, des intimidations. Ils s'hérissent, parce que les chimpanzés ont une capacité de pilo-érection. Donc en fait, ceux qu'on suit en Ouganda, on est en zone de montagne, ont des poils très longs. Donc ils se hérissent et leur volume double voire triple quand ils
comme un chat qui a peur, quoi. Comme la queue d'un chat qui a peur, en gros.
Exactement, sauf que c'est tout le corps, y compris la tête et les bras. Donc déjà, ils ont des bras relativement costauds, donc une fois gonflés, voilà. Et donc les jeunes chimpanzés se testent un peu comme ça, se font un peu peur en essayant de nous approcher. Et c'est adorable.
Il paraît que vous les appelez mes frères, c'est vrai ça?
Oui, j'ai donné ce titre-là à mon livre, dans le sens où il y a cette question de proximité génétique.
98,79% de notre patrimoine génétique est commun avec eux, c'est ça?
Exactement. Donc ça veut dire qu'on partage beaucoup avec eux et que, par exemple, ces comportements que je vous décris, mais si vous les voyez, si vous êtes en face d'eux, vous comprenez les émotions par les mimiques qu'ils ont. par leurs expressions faciales, mais aussi par leur posture. Et donc, ce partage fait qu'on se sent frère, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croiser le regard d'un chimpanzé et se sentir complètement indifférent. Soit on est, certaines personnes sont gênées par ce regard, ou certaines sont vraiment en empathie. Et cette proximité, on la ressent. Et d'autre part, cette fraternité, en fait, elle justifie le fait qu'on se batte pour eux, parce que certes, ce sont des animaux, mais je pense qu'ils contribue à faire tomber un peu cette barrière qu'on essaye d'ériger entre nous autres humains et les autres non-humains.
Alors on voit que vous faites tout pour ne pas les déranger, pas les perturber dans leur environnement, c'est sage. Et l'homme là-bas, vous le dérangez pas trop? Vous êtes menacé? Vous parliez d'ateliers anti-braconniers, enfin de... Mm-hmm. Comment ça se passe?
Alors l'homme, en fait, les humains, je les ai côtoyés très rapidement, puisque dans mon travail de recherche, en fait, il s'agissait de comprendre si les chimpanzés étaient capables de se soigner. Et donc, pour pouvoir aussi connaître la pharmacopée de cette forêt, le potentiel médical de cette forêt, j'ai assez rapidement travaillé avec les villageois qui m'ont... partager leur savoir, leur connaissance et la façon dont les plantes étaient utilisées. Et assez rapidement, j'ai compris à quel point cette forêt, qui est un parc national, était devenue une zone de conflit, une zone de non-droit pour les humains, une zone de frustration et une zone de problème. Puisque de cette forêt sortent certes des chimpanzés, mais aussi des babouins, des éléphants, qui viennent et qui détruisent les cultures des humains. Mmh. Donc depuis à peu près 20 ans, non seulement je travaille avec des Ougandais qui sont les seuls employés aujourd'hui que j'ai, hein, toute mon équipe est ougandaise,
et locale,
mais également aujourd'hui le travail qu'on fait avec les villageois vise à améliorer leur façon de vivre grâce à cette faune, et non plus contre cette faune. Puisque quand le parc a été créé, ils ont été expulsés de la forêt, ils n'avaient plus le droit d'aller herboriser, plus le droit de ramasser du bois, et ils n'avaient que des inconvénients à vivre à côté de ce parc. Donc notre travail, la plupart de mon équipe en fait, travaille plus avec les humains qu'avec les chimpanzés. Mmh. Et l'idée est de faire en sorte que cette viande qui parfois est prélevée dans la forêt, qui explique en fait souvent les mutilations très graves qu'ont les chimpanzés, des mains en moins, des pieds en moins, eh bien ils puissent la trouver ailleurs et que leur revenu et leur vie en général s'améliorent et soient améliorés grâce aux chimpanzés et aux éléphants.
Sabrina Krief, aujourd'hui vous êtes réputée, réputation mondiale, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas pris pour une dingue au début? Est-ce que vous avez mis du temps à être légitime? Est-ce que il n'y a pas des gens qui se sont dit « mais elle est gentille, mais elle va vivre avec les singes comme elle pourrait les jouer du banjo dans les arbres ?»
Oui, j'ai commencé ma thèse parmi les chimistes, puisque j'ai fait ma thèse en chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette parmi des équipes de pharmaciens, biologistes et tout ça. Effectivement, j'étais considérée comme un peu farfelue et mon directeur de thèse avait très peur aussi de la façon dont j'ai été reçue. D'ailleurs, il m'a écrit il y a trois, quatre jours. Se rappelant justement ce moment où il lui avait fallu me faire accepter parmi les chimistes. Et en fait, quand on a réussi à trouver ces nouvelles molécules, ça nous a permis justement de dire que la piste des chimpanzés n'était pas complètement hors sujet.
Évidemment.
Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part.
Alors là, c'est le saut brutal. On était dans la forêt en Ouganda. Tac! Vous voilà en ville, ce qui vous est arrivé cette semaine. Clin d'œil à la chanson de Starmania. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. Vous y étiez encore cette semaine, je le disais. Quand vous revenez à Paris, comment vous vous sentez?
Je me sens parfois un petit peu en décalage, mais en fait, c'est devenu tellement normal pour moi de vivre en forêt que le retour en ville n'est pas si brutal. Alors, je suis évidemment un peu triste, hein, toujours un petit peu le blues de quitter cette forêt, de quitter notre équipe. Mais c'est aussi le moment où on essaye d'analyser ces données, on essaye de trouver, de mettre sur le papier les sensations ou les impressions qu'on a eues pendant les observations, d'essayer de formaliser
ça. Ça, c'est le travail de la scientifique, mais la femme, quand elle passe vraiment d'un monde à l'autre, qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce qui vous choque le plus quand vous revenez en terre strictement humaine?
Probablement les visages un peu tristes des Parisiens du métro, même si maintenant ils sont cachés par des masques.
On est moins expressifs que des chimpanzés?
Bien moins, oui. Et aussi que les Ougandais, qui ont le plus souvent un sourire assez radieux, malgré les conditions difficiles de vie. Donc oui, c'est souvent ce qui m'étonne. Et puis évidemment le flot d'informations, hein, puisque quand on est en Ouganda, on est un peu coupé de toutes ces nouvelles assez terribles, qui font que oui, parfois le monde sauvage est plus celui de la ville que celui de la forêt.
Ah, c'est pas inintéressant comme remarque. Alors, on l'évoquait d'un mot tout à l'heure, les singes, c'est une affaire de famille chez les Krief. Vous avez toujours votre photographe officiel et amoureux dans vos bagages. C'est Jean-Michel. Parlez-nous de Jean-Michel, qui est donc sur l'autre barque, hein, quand vous allez rencontrer cette femelle chimpanzée qui vous fait un hug au début de votre carrière. C'est qui Jean-Michel? Comment vous l'avez trouvé?
Alors, on s'est rencontrés au lycée, à Maisons-Alfort, effectivement, moi, je suis née, donc j'étais un peu prédestinée à aller à l'école vétérinaire. Lui a commencé par la suite à faire des études de médecine, puis assez rapidement, donc il a pris la direction de la photo, ce qui a permis pour moi, de continuer à faire des études un peu longues.
Il a tout arrêté pour vous suivre, en fait? Il est passé de la médecine à la photo pour vous?
On a construit le projet ensemble, mais c'était effectivement le moyen de gagner sa vie et de faire en sorte qu'on devienne autonome, indépendant et qu'on puisse partir au Kenya, à Bornéo, et vivre ces aventures ensemble sans être trop dépendant de nos parents. Et puis probablement que lui était beaucoup plus attiré initialement par les grands singes, par King Kong et compagnie, et que le choix, en fait, l'orientation de ma carrière véto a été aussi fortement guidée par lui, à savoir, lui n'avait pas forcément envie que je sois véto en Normandie à soigner des vaches.
Ah, donc le goût initial, il est peut-être plus chez lui que chez vous? C'est lui qui vous a aiguillé par là?
L'amour des grands singes et la curiosité envers les chimpanzés, je pense qu'il l'a éprouvé avant moi. Ouais.
Et vous évoquiez vos parents, comment ils ont réagi, et vos parents respectifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais ils sont barjots les deux là.
Oui, un peu. Disons que mes parents pensaient que, une fois que j'avais fini mes études véto, j'allais m'installer tranquillement dans un cabinet, et donc ils ont eu du mal à comprendre que je reparte pour encore quelques années d'études et pour partir au fin fond de l'Afrique. Quant aux parents de Jean-Michel, la première fois qu'on est rentré du Congo, il avait perdu 10 kilos et sa maman a fondu en larmes. Donc voilà, j'étais un peu celle qui l'avait attiré dans un monde inconnu, mais ça lui a permis aussi de se rassurer, parce que maintenant, je pense qu'ils sont tous en confiance quand on part.
Ces photos, tout ce qu'il prend avec son appareil quand il vous suit, quand il vous accompagne, c'est des souvenirs ou c'est un outil de travail? C'est quoi?
C'est les deux, parce que évidemment c'est un outil de travail, à savoir les photos des plantes ou les photos des individus nous permettent de faire des identifications, puisque certaines plantes de la forêt tropicale sont encore complètement méconnues, donc il y a besoin de faire des herbiers, de pouvoir les identifier. C'est aussi un outil très précieux en termes de sensibilisation, parce que ce soit ici où les grands singes sont assez peu connus et où à chaque fois qu'on fait une exposition ou qu'on met une photo, même sur la couverture d'un livre, on nous dit mais c'est pas un chimpanzé, c'est un gorille. Donc l'image du chimpanzé que les Européens, les Français ont, c'est un petit primate plutôt rose de visage, parce que tous les chimpanzés qu'on voit en général sont des bébés chimpanzés. Et donc un chimpanzé adulte noir qui pèse 60 kilos, pour eux ça ressemble plus à un gorille. Donc,
Cheetah dans Tarzan, c'est quoi? Juste pour
c'est un chimpanzé.
C'est un chimpanzé, ouais. Mais c'est un petit.
Oui, une jeune chimpanzé. Ouais. Bon.
On va marquer une première pause musicale, Sabrina Krief, le temps d'écouter le titre que vous avez choisi, et c'est Wild World de Cat Stevens, c'est ça?
Ouais.
Pourquoi?
Alors, c'est une chanson qui nous a porté pendant un marathon, le marathon de New York, donc qui a été diffusée au début du marathon, et qu'aujourd'hui, la course à pied, c'est devenu un peu le moyen de réussir à suivre les chimpanzés. Donc,
parce qu'ils vont vite?
ils vont très vite dans la forêt et qu'il y a besoin vraiment de s'entraîner pour pouvoir les suivre.
C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous soyez une sportive de haut niveau pour pouvoir accomplir votre travail.
Alors, sportive de haut niveau, pas bah, forcément, quoi. Mais voilà, en tout cas, avec un peu de souffle et d'endurance, les journées durent 10 à 12 heures. On est en montagne, en altitude. Donc, si on veut réussir à avoir quelque chose, il faut crapahuter.
Vous n'avez jamais peur dans la forêt quand il y a des serpents, il y a des trucs horribles là-dedans?
Alors, les moments vraiment de peur et là où on se met à courir vite, c'est plus avec les éléphants qu'avec les serpents. Les serpents, tant qu'on leur marche pas dessus, ils nous dérangent pas. Par contre, les éléphants, étonnamment, sont capables de se dissimuler dans le sous-bois et on peut arriver à quelques mètres d'eux sans les avoir vus. Et là, c'est pas du marathon, c'est du sprint qu'il faut faire entre les racines et les arbres. Donc, c'est ça qui est le plus dangereux, en fait, dans la forêt.
Et c'est un monde sauvage, Wild World, Cat Stevens. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care, hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Cat Stevens, Wild World, le choix de Sabrina Krief dans Hors Piste sur France Inter. Elle est vétérinaire, primatologue, elle est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et elle nous emmène faire du Hors Piste avec les chimpanzés, ses frères de la forêt, pour reprendre le titre de son livre. Il paraît, Sabrina Krief, qu'il faut surtout pas vous dire que vous travaillez sur les chimpanzés, que ça vous rend dingue. Pourquoi?
Bon, parce que c'est pas un objet, c'est pas juste quelque chose qui m'occupe, c'est avec les chimpanzés que je travaille, c'est parce qu'ils m'ont accepté, effectivement, que j'arrive à progresser dans mes travaux. Donc oui, c'est avec les chimpanzés dans leur diversité aussi.
Pourquoi on les aime tellement, les singes ?
Probablement d'abord à cause de cette proximité, de cette ressemblance et de ce qu'on voit en eux de nous-mêmes. Je pense que quand on voit l'affection, la tendresse d'une mère pour son bébé. Donc là, je le disais, Shakira a eu un bébé, mais aussi Gina. Et donc, pour la première fois, en fait, j'ai vu un bébé d'un jour. J'ai vu une maman sortir de son nid avec un tout petit qu'on a détecté que parce qu'on a vu des petits points roses sur ses côtés, les toutes petites mains du chimpanzé.
Vous étiez émue ?
Oui, oui, émue, ouais. Parce que c'est, en fait, on attendait le réveil de cette jeune chimpanzé. On se demandait pourquoi à 7h30 elle était toujours pas sortie de son nid alors que les autres s'étaient levés vers 6h30. On s'inquiétait, on se demandait si elle était malade. Il faisait froid ce matin-là, son haleine en fait faisait une espèce de brume. Ouais. Et quand un des autres chimpanzés est monté dans son nid, donc oui, là on s'est dit mais lui aussi s'inquiète, qu'est-ce qui se passe ? Et quand elle est descendue et qu'on a vu cette toute petite chose qui tenait dans sa main, effectivement, c'est un moment d'émotion. Et la façon dont elle l'a présenté, dont les autres sont venus l'observer, et comme la façon dont elle l'a protégé aussi. Les jeunes essayaient de l'épouiller, mais elle le protégeait. Oui, c'est très émouvant, ce lien et cette affection.
Quand vous dites là-haut dans son nid, c'est à quelle hauteur à peu près, en général ?
Elle n'était pas très haut. Alors, les nids des chimpanzés, ça peut être jusqu'à 30 ou 40 mètres, hein, mais là, elle était à peut-être 4-5 mètres.
Alors pour les petits Parisiens qui ont la chance d'aller au Jardin des Plantes, la star des chimpanzés, évidemment, c'est Nénette.
C'est une vieille dame, placide, aux gestes patients et précis. Nénette, cette femelle orang-outan, doyenne des primates de la ménagerie du Jardin des Plantes, va fêter ses 50 ans.
Dès qu'elle nous voit, elle s'approche de nous. Soit elle tire la langue ou des fois elle tape.
Si des gens se moquent d'elle ou si des gens lui déplaisent, elle tourne le dos immédiatement. Elle a une vraie personnalité.
Un caractère bien trempé et une âme d'artiste. Pour tromper l'ennui, l'équipe des soigneurs lui a proposé un atelier peinture non toxique pour les orang-outans.
Voilà, parce que c'est une orang-outan et pas un chimpanzé, Nénette. Hein, vous m'avez corrigé, vous avez bien raison.
Exactement. La différence est assez facile. Les orang-outans sont roux et les chimpanzés sont bruns.
Oui, j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est pour ça qu'on va vous garder encore pendant quelques minutes, Sabrina Krief. Est-ce qu'elle est à sa place, Nénette, là-bas au Jardin des Plantes ?
Alors aujourd'hui, en fait, elle a toujours vécu en captivité. Elle a sa place parce que la changer d'endroit, c'est la précipiter vers la mort. Hein. Oui. Elle a toujours connu elle est née en milieu naturel, mais ça fait 48-47 ans qu'elle vit à la ménagerie. Il a même été question à un moment, on s'est demandé si on pouvait la transférer au parc zoologique de Paris pour essayer d'avoir un espace plus grand. Mais franchement, en fait, ce qui fait la particularité des grands singes aussi, c'est leur côté routiniers. Mmh. Ils sont assez conservateurs et assez peu innovateurs, même si parfois donc, ils arrivent à faire des découvertes.
Le grand singe est casanier.
Le grand singe est assez routinier, ouais. Et a donc des habitudes. Donc la question se pose pour les nouveaux individus. Est-ce que effectivement il faut continuer à accueillir des grands singes ? Évidemment, absolument pas les prélever en milieu naturel, mais les jeunes individus, est-ce qu'il faut continuer à les montrer ? Il est vraiment très très important d'améliorer les conditions de logement et de vie sociale des grands singes. Par exemple, des chimpanzés ne peuvent pas être isolés, ne peuvent pas vivre qu'entre mâles ou qu'entre femelles. Ils doivent aussi pouvoir exprimer leur besoin naturel d'isolement. Un chimpanzé sauvage, en fait, vit en communauté, mais les groupes sociaux se font et se défont au cours de la journée. Donc parfois, le chimpanzé va être tout seul, parfois il va être avec 20 congénères. Et il faut que ce système social, qui est l'habit, puissent être créés. Donc il leur faut des espaces de communauté et des espaces où s'isoler. On y travaille à la ménagerie. En fait, ça fait plusieurs années que le projet d'agrandissement de leur espace de vie a débuté. Et donc, on espère que d'ici, on va dire 2 ans, cette grande volière leur permettra et permettra à Nénette d'avoir un peu plus d'espace.
Combien de temps ça vit, un orang-outan?
Alors, pour un orang-outan, c'est un très très bel âge. C'est probablement une des doyennes des orang-outans en captivité. Les chimpanzés, quand ils sont en milieu naturel et si les menaces ne sont pas trop fortes, peuvent vivre aussi 50, 60, voire 70 ans.
Il y a quelqu'un qui a toujours une photo de Nénette avec elle dans son portefeuille, vous la connaissez bien, c'est Nathalie Baye. Vous l'avez emmenée en voyage avec vous, c'est il y a 2 ans, en 2019, en Ouganda. Et elle a accepté d'en dire quelques mots et de parler de vous.
Elle est brillante, elle fait des choses assez extraordinaires et en même temps, elle est d'une simplicité renversante. C'est quelqu'un qui ne se met pas du tout, qui ne se met pas assez du reste en lumière. Et voilà, parce que elle est avant tout passionnée par ce qu'elle fait. L'amour qu'elle porte aux chimpanzés et j'ai envie de dire à tous les animaux, mais enfin là il se trouve qu'en Ouganda c'est avant tout les chimpanzés, et c'est très beau à voir la façon dont elle les observe, dont elle, quand on était là-bas, et elle systématiquement quand elle est là-bas, on se réveille aux aurores, on marche beaucoup dans la brousse, et puis subitement on va se mettre en dessous d'un arbre où il y a toute une famille de chimpanzés qui dorment, et avec l'arrivée du jour et de la lumière, la famille commence à se réveiller, il y a des bébés qui courent, qui galopent partout, et la façon dont Sabrina les regarde, les en parle, les protège. Il y a rien de plus beau que les gens passionnés. On a envie d'être comme eux et c'est très porteur et très révélateur.
Elle est fan, hein. Elle est fan des chimpanzés. Elle est fan de vous. Comment ça se passe, une star sur la planète des singes comme ça?
Bah, une star comme Nathalie Baye, c'est très facile parce que elle parle de ma simplicité, mais la sienne est absolument incroyable. Elle a beaucoup d'autodérision, donc toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, comme on en rencontre, hein, dans la forêt, c'est-à-dire on tombe, on glisse, on dérape, voilà, on n'est pas très beau à voir. Ça lui posait pas de problème.
Et pourquoi vous l'avez emmenée? C'est pour pipoliser l'aventure, pour qu'on en parle? Ou c'était
non,
quoi,
alors
la démarche?
Initialement, en fait, on avait fait une expo au Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelait Sur la piste des grands singes, et elle avait annoncé dans les médias que c'était l'expo qu'elle voulait voir. Hein, comme j'étais commissaire et que j'avais monté cette expo, je m'étais dit bon, je vais lui proposer. J'avais envoyé un petit mail et elle m'a répondu dans la journée. Donc je l'ai invitée à lui faire découvrir l'expo, et en fait, très rapidement, il y a une complicité qui s'est nouée. Elle m'a demandé d'aller voir Nénette et elle a vraiment montré son intérêt et son engagement aussi pour la cause animale et une
c'est
tendresse.
C'est elle qui vous a demandé de venir avec vous, ou c'est vous que je lui ai proposé?
Oui, c'est elle qui m'a demandé à nombreuses reprises de pouvoir avoir la chance de voir les chimpanzés en milieu naturel.
Et elle a une question à vous poser, je crois.
La question, c'est que est-ce qu'elle est d'accord pour que je retourne une autre fois avec elle en Ouganda. Voilà.
Oui, elle le sait. On est très très, enfin, on est très proches. On est devenus proches, hein, et c'est vraiment devenu une amie. Et je sais qu'elle me la pose souvent cette question, et évidemment avec plaisir.
Donc la réponse est oui. Attention, maintenant c'est enregistré, hein, Sabrina Krief. Nous, entre humains, on se comprend à peu près. On arrive à se parler. Et les singes, comment ils se parlent?
Bah, à peu près de la même façon, donc à la fois vocalement, mais aussi beaucoup donc par le biais des expressions faciales, et assez étonnamment aussi quand ils ont besoin de communiquer à longue distance parce qu'ils n'ont pas de téléphone portable.
La chance.
Ils utilisent donc soit des cris qui portent loin, mais aussi du tambourinage sur les racines des gros arbres. Et ça, c'est absolument fabuleux parce que ça résonne. Et il y a comme des jalons en fait dans la forêt avec une espèce d'arbre en particulier, donc en Ouganda, ça s'appelle Aningeria. C'est un grand arbre avec un tronc très très haut, très droit, qui est émergent, qui fait 40 à 50 mètres. Et ça résonne, ça porte. Et on arrive à reconnaître non seulement les voix des chimpanzés, c'est-à-dire que la façon dont celui-là crie, on sait que c'est Aragon. La façon dont celui-là tambourine, on sait que c'est Ntabou. Voilà, donc c'est assez étonnant. Donc si nous, on arrive déjà à décrypter ça, vous imaginez bien sûr qu'entre eux, ils se comprennent encore.
Que vous arrivez à peu près à comprendre ce qu'ils se disent?
Alors, comprendre ce qu'ils se disent non, comprendre ce qu'ils transmettent, savoir les émotions, donc si c'est de la colère, de la peur, de l'excitation, du plaisir, partager de manger, par exemple. Ces fameuses salutations qu'on entendait au début, qui montrent la relation de dominance entre deux individus. Oui, tout ça, on le comprend. Après, la communication fine, ça nous reste encore à découvrir. Et j'ai d'ailleurs une doctorante qui va commencer. Donc, ces petits cris, ces petites vocalisations de proximité, ça fait partie des choses qui nous restent aussi à décrypter. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une sorte de syntaxe, c'est-à-dire que plusieurs cris peuvent être combinés. Donc, c'est pas juste un cri qui est poussé, c'est une combinaison de cris. Et ces cris sont variables en fonction de l'audience qu'ils ont. C'est-à-dire que un chimpanzé va crier à l'aide si il y a vraiment un individu qui peut l'aider, s'il est dans un contexte où un autre l'attaque, etc., l'agresse. Par contre, il va pas s'embêter à pousser ce type de cri là s'il y a personne pour l'aider.
Oui. Donc malin comme un singe, ça veut dire quelque chose quand même, l'expression. Oui. Ça a du sens. Je voudrais qu'on dise quelques mots parce que vous avez tout un travail sur les conséquences des perturbateurs endocriniens. En quelques mots, à quelle conclusion vous êtes déjà arrivé là-dessus? Alors parce que ça nous concerne aussi, ça, les perturbateurs endocriniens.
Ça a commencé au début de l'habituation de ce second groupe à Sébitoline, donc qui est dans la zone au nord du parc où on travaille, où dans mes jumelles, en fait, j'ai aperçu des visages qui me semblaient étonnants, c'est-à-dire une femelle avec un bec de lièvre, des individus qui avaient la face très très plate, voire pas de narines, voire des narines rétroversées. Donc je me suis interrogée sur la raison de ça, et puis je me suis rendu compte que c'était les plus jeunes qui étaient atteints et qu'il n'y avait pas de lésions, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de croûte, pas de... Et donc les hypothèses qu'il y avait, c'était soit de la consanguinité parce que on était dans une sorte de cul-de-sac de forêt où il n'y avait pas de possibilité pour ce groupe-là de rentrer en contact avec d'autres, avec en plus une route qui partage leur territoire. Donc peut-être cet isolement, ou bien un facteur environnemental externe. Et donc l'hypothèse de la pollution est apparue assez rapidement. Donc avant d'avoir confirmation, j'ai quand même fait les analyses en me disant que ça prendrait trop de temps pour le vérifier, vu qu'on peut pas faire de prise de sang, etc. Et là, je me suis rendu compte à quel point l'environnement a été atteint par les intrants chimiques. Donc autour du parc, il y a beaucoup de plantations de thé avec énormément de glyphosate, le fameux Roundup, qui est vaporisé sur le thé. Et les chimpanzés sortent donc de la forêt, comme on le disait au début, pour manger du maïs. Et ce maïs, en fait, est assez particulier. Il est enrobé de néonicotinoïdes, d'imidaclopride, donc qui est aussi un perturbateur endocrinien et un tueur d'abeilles. On en a entendu parler ces dernières années aussi en France. Et les chimpanzés mangent le maïs.
C'est ça qui entraîne, donc c'est des formations.
Alors, on n'a pas mis en évidence le lien complètement direct, mais cependant, on s'est rendu compte qu'il y avait un cocktail chimique dans les rivières de plus de 15 perturbateurs endocriniens qui, si on met des têtards à grandir dans cette eau des rivières, donc que j'ai ramené et que j'ai confié à mes collègues endocrinologues et qui travaillent sur l'endocrinologie au muséum, les têtards ont des malformations, c'est-à-dire que ils ont des têtes mal formées, etc., des problèmes de comportement aussi. Ça a aussi des effets de perturbation sur les hormones sexuelles. Donc c'est vraiment une hypothèse qui est très très forte. Et évidemment, si les chimpanzés sont atteints, on a aussi des babouins qui ont des malformations. À cause de cette proximité génétique entre primates, on s'attend à ce que les risques soient importants pour les humains. Et donc pour nous, il est urgent d'agir. Et donc on travaille justement avec les communautés villageoises pour essayer de faire en sorte qu'autour du parc et dans cette zone-là, on puisse passer en agriculture bio. Et donc là, on est en train de mettre en place un projet de thé bio.
On en vient à l'objet que vous avez choisi de nous apporter, Sabrina Krief. Qu'est-ce que vous avez donc choisi? Je vois que vous fouillez dans votre sac.
Alors, je fouille dans mon sac et je vais vous laisser deviner. Alors, parce que je pense que c'est pas du tout ce à quoi vous
attendiez.
Je pensais
que ce serait vos jumelles ou votre carnet dans lequel vous notez tout, mais là, visiblement, c'est pas
non.
Ça. Donc, c'est emballé.
Vous ai amené.
Qu'est-ce que c'est?
J'espère qu'on a assez de temps.
La vanille? Non. Des branches?
Je vous les confie. Donc, effectivement, ce ne sont pas des objets humains.
Des tiges en bois. Hein,
ce sont des outils de chimpanzés.
D'accord.
Donc ce sont des baguettes qui sont émoussées à une extrémité. Par contre, il faut pas forcément goûter non plus.
Non, je goûte pas, je sens simplement.
Voilà. Ce sont en fait des sortes de cuillères de chimpanzés qu'ils utilisent pour aller chercher du miel.
D'accord.
Donc le petit
donc
bout.
Donc c'est curvé, c'est eux qui les ont curvés, qui les ont
voilà,
en fait, taillés comme
le,
ça.
Voilà, le bout émoussé en sorte de pinceau, c'est pour essayer de récupérer le plus de miel possible. Donc c'était pour vous faire un peu plus entrer dans le monde des chimpanzés et vous dire que.
On y est bien déjà depuis tout à l'heure.
Voilà, il n'y a pas que les humains qui ont des outils, des objets. Ça leur permet d'accéder à des choses qui sont non visibles, donc sont du miel qui est souterrain d'abeilles mélipones. Et donc pour eux, c'est assez compliqué comme tâche parce qu'il faut creuser la terre d'abord, donc avec des baguettes plus costauds, avant de perforer, puis ensuite d'aller chercher le miel.
Et les trois se ressemblent, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ils construisent cet outil en sachant exactement ce qu'ils font, visiblement.
Exactement, donc il y a des tailles, des longueurs, des diamètres différents en fonction des tâches. Et ça fait partie aussi de notre travail. On a accroché des petites rubalises là, donc on mesure, on essaye de mieux comprendre comment et à quel âge, par exemple, les chimpanzés commencent à utiliser ces outils. On localise avec le GPS, etc.
Est-ce que vous êtes toujours humano-compatible? Est-ce qu'il y a encore une place pour l'espèce humaine dans votre vie?
Ah oui, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, j'ai plaisir à interagir avec les humains et à travailler avec mes étudiants et à interagir, avec les autres humains. Ça me fait aussi plaisir de partager et je trouve que le métier de chercheur et mon travail au muséum est absolument fabuleux pour ça, parce que j'ai la chance, et je le reconnais, de faire ce travail-là, mais j'ai aussi la possibilité de le partager, et donc les conférences, les cours, c'est aussi le moyen de faire découvrir et de partager ces belles choses.
La nature invite à l'humilité. Cela dit, vous ferez quoi dans 10 ans? Vous continuerez à aller en Ouganda? Vous ferez de la politique peut-être pour qu'est-ce que vous ferez dans 10 ans?
Non, j'espère vraiment pouvoir continuer à aller en Ouganda en essayant de m'entretenir et en continuant à faire de la course à pied. Peut-être qu'on aura des moyens différents aujourd'hui. Donc il y a à la fois ces espèces de caméras espions, les caméras trappes qui se déclenchent quand les animaux passent devant. Donc ça, ce sont aussi des outils très très précieux qui nous ont aidés pendant la période du Covid à suivre les chimpanzés. Au moment où on n'avait plus le droit d'aller en forêt, on pouvait toujours voir ce qui se passait. Donc ça, c'est assez amusant aussi d'être espion comme ça. Puis il y a les drones. Donc voilà, j'espère que tout ça nous permettra de plus facilement peut-être suivre les aventures de ces chimpanzés-là, leur vie, voir comment chacun grandit, comment le bébé de Gina et le bébé de Shakira, on l'espère, deviendront des mâles ou des jeunes femelles solides dans la communauté. J'espère qu'ils seront toujours là, parce que les prédictions sont que d'ici 10 à 15 ans, les chimpanzés pourraient avoir disparu. Et puis ensuite, continuer à se battre ici. Alors faire de la politique pour la politique, non, mais faire de la politique pour essayer de convaincre à changer nos façons de faire et essayer de faire en sorte que les politiques nous accompagnent pour faire en sorte que ce soit du thé qui ne nuise pas à la santé et qui ne nuise pas à l'environnement, qui soit dans les rayons de nos supermarchés, cette lutte contre la déforestation, elle ne soit pas faite juste dans ces pays-là, mais que ceux qui consomment les produits de la déforestation soient aussi engagés. Dans ce sens-là, j'espère pouvoir avoir un petit effet.
Si celui ou celle qui entrera ou restera à l'Élysée dans quelques semaines vous disait « Tiens, Sabrina, tu veux pas être ma ministre de l'Environnement ?»
Non, parce que ministre de l'Environnement, ça permettra pas de pouvoir continuer à être ministre d'Eliott sur le terrain, mais travailler avec un ministre de l'Environnement, oui. J'ai déjà eu la chance de côtoyer certains des ministres et de pouvoir donner mon avis sur certains effets qu'on peut avoir ici. Donc ça, c'est toujours gratifiant.
et utile. Merci beaucoup Sabrina Krief de nous avoir emmené dans votre monde qui est aussi le nôtre, même si on ne sait plus trop le regarder. Merci de nous ouvrir les yeux. C'est la fin de ce numéro de Hors Piste. Merci également à Marie Merrier à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Rémi Sistiaga aux manettes. Prochain Hors Piste dans une semaine à 17h. Et puis le principe, parce qu'on a des règles, on est comme les chimpanzés, on est un peu casaniers, c'est toujours l'invité qui a le dernier mot de Hors Piste. Donc c'est à vous, Sabrina Krief.
Un grand merci pour cette invitation, bravo, et continuez à être hors piste.
Merci à vous.